Radio Kapi. Oh, Kapi.
Journal présenté par Patience Ngalula.
D'abord les titres. La vie reprend normalement au centre commercial de Kunda dans le territoire du Rumu après environ une année d'instabilité suite à l'activisme des groupes armés. Ceci est le résultat des opérations militaires menées dans cette entité par le FRDC. Au moins 8 personnes sont mortes, plusieurs habitations encore inondées ainsi que des routes après des fortes pluies qui se sont abattues depuis le week-end à Kinshasa. L'invité de ce journal est Daniel Loaboshi, directeur général de la Régie des voies fluviales, RVF. Il revient sur la montée des eaux du lac Tanganyika et ses conséquences à Uvira et Kalemie. Ce journal part de l'Ituri, où la vie a repris normalement au centre commercial de Kunda, à 17 km à l'ouest de Bunia, dans les territoires du Rumu, après environ une année d'instabilité suite à l'activisme des groupes armés. De nombreux déplacés qui avaient fui les affrontements entre des miliciens de la FPIC et des CODECO ont regagné leur village. C'est le résultat des opérations militaires menées dans cette entité par le FRDC. Une délégation des notables de la communauté locale s'est rendu sur place le week-end dernier pour constater la relance des activités scolaires et économiques dans les milieux. Martial Kizabiamungu.
Boutiques, marchés et écoles fonctionnent normalement à Kunda. Des centaines de familles de déplacés qui avaient fui l'activisme des groupes armés ont déjà regagné leur milieu. C'est grâce à l'accalmie observée depuis quelques mois à la suite des opérations militaires conduites par les FRDC déployés sur place. Des habitants de Chari, Tséré et d'autres agglomérations voisines affluent au marché communautaire de Kunda pour les transactions des vivres et des produits de première nécessité. Ce qui renforce la cohabitation entre les communautés locales, déclarent certains marchands. Selon ces derniers, la population avait peur de se fréquenter à cause de la persistance de l'insécurité. Le député provincial Isaac Lebisabo, un des notables de cette entité, lance un appel aux habitants de consolider ses acquis pour une paix durable dans la région.
La population de l'ouest de la ville de Bunia, je leur appelle seulement à la cohabitation pacifique, à cultiver l'esprit de patriotisme.
Pour rappel, Kunda est l'une des localités qui approvisionne la ville de Bunia en produits agricoles, dont des cossettes de manioc, légumes, patates douces, les haricots et des braises. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la guerre du M23 impacte négativement le fonctionnement de quelques services de l'État générateurs de recettes. C'est le cas du service d'encadrement et d'exploitation minière artisanale et de petite échelle, SAEMAP. Des sources proches de ces services affirment que la guerre du M23 a asphyxié son fonctionnement. Les points avec Gabriel Wamenya.
Des sources proches de la direction provinciale du CMAP affirment qu'elle fait aujourd'hui face à des grands défis depuis la prise de la cité stratégique de Mushaki, en groupement de Mufuni Matanda, par les rebelles du M23. C'est cette cité qui est et qui reste la plaque tournante pour l'évacuation des minerais dans les territoires de Masisi et Walikale. La fermeture de la route par les rebelles du M23 affecte d'abord les revenus en termes de production qui sont non seulement revus à la baisse, mais aussi l'accès aux sites d'exploitation qui devient quasiment impossible. La deuxième conséquence de cette guerre du M23 évoquée par les mêmes sources, c'est l'aspect social. 3 agents du CMAP seraient décédés faute d'une prise en charge médicale adéquate. Des sources toujours proches de la direction provinciale précisent que les agents de ces services générateurs de recettes acquisent un retard de 4 mois de non-paiement avec tous les avantages sociaux, même si la direction générale du CMAP à Kinshasa a commencé à payer les arriérés sans autres avantages conformément aux dispositions légales. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Au nord Kivu toujours, il s'observe une intensité de la fraude des minerais dans la région des Rouba et Amatanda Mushaki en direction des Kibati Kibumba jusqu'au Rwanda. Dans la même région, d'autres quantités quittent Rouba et passant par Ngungu Minova puis stockées à Kasunyu au bord du lac Kivu. C'est là que des pirogues venues du Rwanda les récupèrent souvent, dissimulées en dessous des sacs de café pour traverser jusqu'au Rwanda, rapportent nos sources. Un autre réseau opérerait entre Bihambwe, Kisuma, Nyabiondo, Katale et Luchebere ainsi que Pinga en territoire de Walikale. Comment ça se passe et qui en sont les acteurs majeurs? Sifa Maguru nous en parle dans ses reportages.
Entre autres acteurs impliqués dans cette mafia, nos sources parlent des chefs de groupes armés, des personnalités influentes de certaines communautés locales, certains agents des services de sécurité, mais aussi des négociants et autres. Autre exemple évoqué par nos sources, c'est le trafic qui s'observe dans la région du territoire de Walikale. Ici, les chefs de groupes armés bien identifiés contrôlent les activités minières et perçoivent des taxes dans les carrières. Ici, on signale la présence du NDC Rénové des Guidons, qui est actif dans plusieurs entités de Walikale, Masisi, Lubero et Rutshuru. On parle également du groupe armé Pareko-O, très actif dans les Masisi, notamment à Rubaya, Ngungu, jusque dans les montagnes de Kale et Minova, pour ne citer que ces deux principaux groupes armés qui contrôlent les régions minières. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons dans le Nord Kivu, cette fois dans la ville de Butembo, où une soixantaine d'élèves et étudiants issus des différentes écoles et universités de la place ont été sensibilisés pour leur implication citoyenne dans la lutte contre l'insécurité dans l'est du pays. C'était au cours d'une conférence débat organisée dimanche par l'organisation locale des jeunes Life Culture. Les participants ont été appelés à jouer un rôle important dans les processus de pacification dans cette région touchée par l'activisme des groupes armés. Joseph Paluku Mérite, l'un des organisateurs de l'activité, explique comment les jeunes peuvent s'impliquer dans le retour de la paix dans leur milieu. Il est au téléphone de Grévis Salumu.
Le pays traverse une période très inquiétante. La poursuite des massacres, la guerre du M23, la criminalité urbaine sont des maux qui menacent le pays. Vous savez que les jeunes ont un grand rôle à jouer car ils constituent une réserve pour l'avenir, mais aussi des acteurs pour le présent. En ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas à dire que tel est opposant, tel est de l'union sacrée. Nous devons nous y impliquer tous et à s'y impliquant, nous devons dénoncer les cas suspects, nous devons faire confiance à l'appareil de sécurité, arrêter de collaborer avec les terroristes ADF, mais aussi les rebelles du M23 et former les services de sécurité de toute personne suspecte dans notre zone. Éviter de se lasser dans la guerre médiatique et faire la promotion des actions des terroristes.
Les pluies se sont succédées à Kinshasa depuis le week-end et cela entraîne des conséquences. Au moins 8 personnes sont mortes, plusieurs habitations sont encore inondées ainsi que des routes. Certaines érosions ont également progressé. Les points dans ce reportage de Babel Pongo et Alpha Poissa.
Une femme et ses 7 enfants sont décédés pendant la pluie la nuit de samedi à dimanche au quartier Cuba, à la cité des anciens combattants en Galiema. Un mur mitoyen a cédé sous la pression de l'eau. La chute d'un poteau électrique a tué un motard ce lundi vers Efobank à Bibwa dans Sélé. Aujourd'hui, plusieurs Kinois se sont absentés des services ou sont arrivés en retard, conséquence des inondations. C'est le cas à Massina, de quartier Patpela, Matadi, Fumutsuka et Lubamba, car aussi vers Kampem à Mongafula, de nombreux quartiers de Ngiringiri vers la direction Khartoum, du quartier Luboudi à Sélé. Limbao, des maisons le long de l'avenue Mamayemo en Galiema, pour ne citer que cela. Témoignage.
Je ne peux plus vaguer normalement à mes occupations parce que les rues sont inondées, il y a de la boue partout, vraiment c'est sale, aberrant.
Autre site inondé, la station service de Kapela à Yolo dans la commune de Kalamu. À la frontière entre Nsélé et Maluku, le sable qui avait envahi le boulevard Lumumba vers Ngandamosolo est en train d'être évacué. Mais cela demande plus de moyens, assurent les deux bourgmestres. Du côté des sites érosifs, certains ont progressé vers Boadi, Ngomba Kikusa, Manenga et au quartier Congo, nous dit le bourgmestre de Ngalima. Par contre, à Kogelos, à Mongafula, des habitants nous apprennent que cette dernière pluie, bien que forte, n'a pas causé de dégâts. La tête d'érosion qui menaçait a été stabilisée à l'aide des sacs de sable.
Autre conséquence de ces fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps sur la ville de Kinshasa, les sites de l'université de Kinshasa est exposé de plus en plus aux érosions et à l'enclavement à la suite de la détérioration rapide et avancée des routes. Les averses du week-end et de ce lundi ont rendu l'avenue Kimwenza un peu après son croisement avec bypass quasi impraticable par les eaux de la rivière déversées à cet endroit et remplissent des cratères créés en pleine chaussée. Pendant ces temps, l'avenue de l'université, le seul praticable, est aussi envahi par d'innombrables nids de poules entre les ronds-points Gaba et Désespoir au niveau du Home Vatican, rendant ainsi la circulation difficile. Michel Kifindangoy.
Outre les érosions qui menacent les sites de l'Unikin de disparition, l'accessibilité à l'université de Kinshasa pose aussi de sérieux problèmes. Les pluies de ces derniers jours ont rendu l'avenue de Kimwenza impraticable au niveau du triangle des campus. Trois cratères ont déjà envahi la chaussée, créant ainsi des lacs artificiels. Témoignage.
Vraiment, avec de l'eau là, on ne sait pas comment traverser. Et parfois, quand on piétine même de l'eau là, il y a des infections qu'on attrape aux pieds. Il n'y a plus vraiment moyen, même pour les véhicules. Il y a trois lacs et au niveau du pont, il n'y a pas seulement de l'eau aussi, il y a des salités aussi. C'est pas facile. On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend pour arranger cette route.
La seule route menant vers l'Unikin reste l'avenue de l'université, qui est aussi envahie par des dizaines de nids de poules, s'inquiète ce jeune politologue.
Nous demandons au gouvernement Touluka de prendre ça parmi les priorités pour que l'on trouve une solution idoine et urgente. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous risquerons d'assister à l'enclavement de cette colline inspirée et inspirante.
La réhabilitation des routes menant vers l'Unikin s'avère tout aussi urgente que la construction des canalisations d'eau pour lutter contre les érosions qui envahissent le site.
Et puis, au Nord Kivu, les réseaux territoriaux des plaidoyers pour la paix, la gouvernance et le développement des Beni plaident pour l'amélioration des conditions opérationnelles pendant l'organisation des prochaines élections locales. C'était au cours d'une rencontre ce lundi avec les chefs d'antenne de la CENI Beni. Cette organisation dit faire ses plaidoyers après l'évaluation du déroulement des dernières élections générales au pays. Parmi les sujets de préoccupation, cette organisation cite entre autres l'affichage tardif des listes électorales, l'indiscipline de certains témoins des candidats ou encore la présence des éléments de la PNC dans des bureaux de vote. Comment remédier à ces anomalies? Benjamin Assimoni, membre du réseau territorial des plaidoyers pour la paix, la gouvernance et le développement des Beni, explique au micro de Marc Marofimbo.
La recommandation que nous avons formulée, c'était par exemple de se rassurer d'avoir émis à chaque chef des centres de vote ou d'enrôlement alors un stock suffisant de batteries, des kits électoraux avec réserve pour secours rapide en cas de panne. Et ça, je pense, affectait un tout petit peu négativement le taux de participation et ça a maintenu le nombre de sièges pour la ville de Beni à 2 sièges au niveau national et également au niveau provincial. Et d'autres recommandations en lien avec le traitement rapide dans les paiements des agents électoraux temporaires, parce que pour nous, ça affecte la neutralité de la CENI et ça fait à ce qu'il y ait certains agents électoraux qui soient peut-être tombés dans les cas de monnayage pour qu'on passe avant les temps, aller voter ou aller se faire enrôler. Mais si c'était des agents bien traités financièrement par rapport à leurs primes et leurs salaires, ça pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait vraiment tellement du sérieux dans les activités électorales.
Parlons santé à présent. La coordination de l'Observatoire des maladies infectieuses et médecine préventive plaide pour l'amélioration de l'accès des déplacés aux soins de santé. Cet appel est formulé à l'occasion de la célébration le 7 avril dernier de la Journée mondiale de la santé. Les responsables de cette organisation estiment qu'autour de Goma, des milliers de déplacés, en particulier ceux qui ont fui récemment les attaques des rebelles du M23 dans la zone de Sake, n'ont pas un accès aux services de santé. Abrahamou Zongou l'a dit ici au micro de Bernardin Nyangui.
Il y a des gaps à couvrir parce qu'avec l'arrivée massive des déplacés internes, les organisations humanitaires ne peuvent pas couvrir tous les camps qui sont déjà ici chez nous à Goma. Et il y a toujours des gaps qui peuvent en découler et certains ménages peuvent échapper aux organisations internationales. Voilà pourquoi nous profitons de ce moment d'appeler le gouvernement à pouvoir mettre des moyens pour sauver la vie des personnes déplacées qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité et adéquates. Ça veut dire que beaucoup ne sont pas pris en charge d'une manière sanitairement équitable que d'autres camps. Parce que même jusqu'à présent, il y a certains cas qui reçoivent des nourritures et d'autres cas ne reçoivent pas de nourriture. Il y a certains cas dont les déplacés ont accès aux soins de santé, tandis que dans d'autres cas, non. Et c'est par exemple le déplacé du camp de Kanyaruchinya. Ils sont pris en charge des fois par certaines organisations comme Save the Children, MSF qui finance des structures comme au centre de santé Majengo. Ils viennent là et ils ont des soins adéquats.
Actualité internationale.
Au Sahel, plus de 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide d'urgence selon les données publiées en avril par l'UNICEF. Le nombre d'enfants actuellement pris en charge pour malnutrition n'a jamais été aussi important depuis 2019. Le Bénina, Jules Faninou est le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En dépit des annonces des régimes militaires au pouvoir au Mali, Niger et Burkina, il pointe l'expansion de la menace sécuritaire dans ces trois pays et ses conséquences pour l'alimentation et la scolarisation des enfants.
L'invité.
Notre invité, c'est Daniel Loaboshi, directeur général de la Régie des voies fluviales RVF. Il revient sur la montée des eaux du lac Tanganyika et ses conséquences à Uvira et Kalemie. Les infrastructures et autres activités commerciales sont menacées de disparition. Daniel Loaboshi s'est rendu compte que les ports de Kalundu est même submergé. Il appelle les gouvernements congolais à prendre des dispositions en dotant la RVF des moyens d'écurage de la rivière Lukuga, qui est l'unique exécutoire de la rivière Lukuga. Daniel Loaboshi s'entretient avec Emmanuel et la Mainjoie Kabiti.
Maître Daniel Loaboshi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez séjourné dernièrement dans le sud Kivu, à Uvira. Quel était l'objet de votre mission là-bas?
En fait, l'objet de la mission était premièrement de participer à la remise des ouvrages effectués par Trademark sur le port de Kalundu et à la remise du même port de Kalundu à l'organisation PFCIGL pour sa grande modernisation. Mais on en a profité aussi pour voir l'état des lieux du lac Tanganyika, dont les eaux ont sensiblement monté et qui sont en train d'emporter tout sur son passage, les maisons et les infrastructures de l'État, et ainsi de suite. Il y en a de même pour la ville de Kalemie aussi, qui sont des victimes de cette montée d'eau.
Quel niveau de dégâts vous avez constaté personnellement sur place?
Je peux confirmer que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Les maisons sont totalement emportées et beaucoup de citoyens ont perdu des maisons. Des maisons en dur, en étage, ainsi de suite. Les routes sont totalement submergés. Et lorsque vous prenez la route reliant la ville d'Uvira à la ville de Bujumbura, elle est coupée, il y a des eaux par-ci, par-là. Lorsque vous prenez la route reliant les ports de Kalundu à la ville d'Uvira, elle est en voie de disparition. Je ne crois même pas que ça puisse encore résister pendant des jours. Lorsque vous prenez la route reliant la province du Sud Kivu à la province de Tanganyika, donc passant par Fizi, elle est aussi en voie de disparition, menacée par les eaux. C'est totalement inondé. Lorsque vous allez à Calais, beaucoup de maisons également sont emportées par les eaux, d'autres sont submergées. Bref, la situation est très catastrophique
et les citoyens sont victimes et les cas risquent d'être créés. Encore une autre crise économique dont on souffre déjà. Voilà.
Et avec tout ce dégât, ça a aussi de l'impact sur le trafic sur le lac, le commerce fluvial?
Bien sûr, ça a de l'impact. Le fait que lorsque vous allez au port de Kalundu, prenons le cas du port de Kalundu et même le port de Kalemie, c'est déjà submergé. Et donc, même l'armateur ou le capitaine, lorsqu'il doit accoster, il ne sait plus différencier ce qui est or exactement et ce qui ne l'est pas. Parce que les eaux ont dépassé totalement les quais et sont allés au-delà du quai. Ce qui fait que beaucoup de bateaux sont en train d'échouer au port, confondant exactement ce qui est port et ce qui ne l'est pas.
Ça impacte sur le trafic. Mmh. Au-delà de cela, pour que le bateau puisse charger et décharger, les marchandises doivent venir par la voie terrestre pendant que les routes n'existent plus. Aujourd'hui, vous avez constaté que même un petit bateau, prenons le cas à Uvira, pour avoir la marchandise, ça doit vous prendre peut-être 2 ou 3 semaines, alors que ça pouvait se charger dans moins de 4 jours. Mais il n'y a pas de route pour ramener les marchandises. Ça pose un sérieux problème. Donc, ça a vraiment un impact négatif sur le trafic fluvial. Et nous en souffrons, nous, comme les exploitants de cette voie là-bas.
Comme DG de la RVF, vous en souffrez. Bien sûr que c'est un phénomène naturel, les eaux du lac Tanganyika en ce moment. Quelle piste de solution vous proposez?
Bon, d'abord, faudra savoir que c'est un phénomène naturel, comme vous l'avez dit. C'est des changements climatiques, ça pose un sérieux problème. Mais lors de la montée des eaux, déjà au niveau du fleuve Congo, on l'avait dit, il y a même une piste de solution, c'est que l'État congolais doit se charger d'éduquer les citoyens par rapport à la protection de l'écosystème. Ça, c'est la première piste de solution. Mais il y en a encore une qui est plus durable. La réalité, c'est que le lac Tanganyika n'a qu'un seul exécutoire, n'a qu'une seule voie de sortie, c'est la rivière Lukuga. Et la rivière Lukuga, avec les constructions qui se sont passées sur la colline dite de l'État au niveau des Kalibi, ça a été submergé au point que le sable a fort remonté. Et nous avions demandé à l'État congolais de pouvoir nous doter de dragues spécialisées et multifonctionnantes pour que nous puissions tirer la rivière Lukuga afin non seulement d'ouvrir la voie qui semble très bouchée, mais même augmenter la capacité de la prise d'eau de cette rivière. Ça permettra à ce que, lorsqu'il y a trop plein dans les lacs Tanganyika, la rivière libère suffisamment d'eau vers le fleuve et ça peut sensiblement diminuer. Mais tant qu'il n'y aura pas cette solution, il y aura toujours ce problème-là. Voilà.
Maître Daniel Loboshi, directeur général de la Régie de voies fluviales RVF, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de la session de vos nouvelles sur Radio Okapi, supervisée et coordonnée par Alain Yurung Mouchins et Jude Bilan Dankoumar. Jean-Noël Mokondo a assuré sa mise en onde. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de votre sympathique attention.